Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Il est venu me chercher à Koundara avec tout son cortège, dans l'intention de m'arrêter. Il est venu en me demandant qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je suis en train de jouer. Et même mon chapeau, il a tapé par ça pour le faire tomber. Je l'ai répondu que je suis votre aide de camp, les arrestations arbitraires, c'est sans que je le sois informé. J'ai dit, je ne sais pas de quoi vous jouez. Je suis un chef d'opération, Makambo voulait venir vers moi, c'est à ce moment, parce que j'avais une arme sous mes mains à ce moment. C'est à ce moment que j'ai ouvert le feu sur lui.
En ce mois de décembre 2009 donc, la polémique, le débat sur la responsabilité de l'armée dans les massacres du 28 septembre au stade de Conakry et les protestations contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara semblent passer au second plan avec cet attentat sur le chef de la junte guinéenne. Moussa Dadis Camara est grièvement blessé. C'est toute la presse internationale qui se demande ce qui s'est passé et dans quel état est le président. La seule chose dont on est certain est qu'il a été sérieusement touché. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, 60 ans d'indépendance de la Guinée. Ce 3 décembre 2009, après l'attentat contre le capitaine Moussa Dadis Camara, circulent les rumeurs les plus folles. Pour certains, il serait mort. Pour d'autres, il serait simplement retenu prisonnier. Capitaine, sur les circonstances même de cet incident dont vous avez été la victime, beaucoup de versions continuent de circuler. On a entendu la version de votre aide de camp. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ce 3 décembre 2009 au camp Koundara? Pourquoi votre aide de camp, Toumba Diakité, a tiré sur vous?
Ce qui s'est passé, et c'est pour cette raison que j'ai dit que je n'ai pas prétendu arrêter qui que ce soit. Mais celui qui aurait tiré sur moi...
Pourquoi vous dites « aurait » ?
Donc celui qui aurait tiré sur moi, après tous les renseignements, il avait dit que s'il ne me liquidait pas, que j'allais leur livrer à la justice, à la communauté internationale. C'est l'objectif pour lequel il y a eu effectivement ce tir. Rien d'autre que ça.
C'était vrai que vous voulez le livrer parce qu'il dit que vous protégiez votre frère et que vous vouliez le sacrifier.
Quel frère? Non, simplement puisqu'il est parti. Et quand la commission est venue, il a été interpellé. Et donc, il savait que de près ou de loin, il allait subir, d'une manière ou d'une autre, des responsabilités qui lui incombaient.
Comment se passe cette tentative de putsch contre vous? Vous étiez allé dans le camp? Que s'est-il passé? Comment vous rencontre-t-il? Et qu'est-ce qui se passe?
Voilà, je crois que c'est un problème de destin.
Vous croyez beaucoup au destin, hein?
Non, je crois beaucoup au destin, parce que je suis resté au camp et à... un des officiers supérieurs qui est venu me voir pour dire, celui qui a tiré sur moi, qu'il aurait donné des coups de fusil à l'état-major de la gendarmerie. Parce qu'il y a un élément, on avait pris un élément, je crois que l'élément, il était question de faire son audition. Et quand il a appris, il a pris une équipe, ils sont allés à la gendarmerie, ils ont menacé les gendarmes, ils ont fait des tirs. Et quand ils m'ont dit, je me suis dit que cela ne se doit pas. On m'avait dit qu'il s'était retranché, effectivement, là où je suis allé.
Dans le camp?
Dans le camp. J'ai pris donc le véhicule avec quelques hommes. Je crois que ce jour-là même, tous les hommes pratiquement étaient partis se reposer. Je suis sorti, je suis allé dans l'espoir de le ramener à la raison. Parce que tous les autres, donc, aucune considération, ils n'écoutaient personne. Ma présence pouvait lui faire retrancher là où il était. Et donc, je suis allé, et quand je suis allé, je suis descendu avec quelques hommes. Et donc, je l'ai vu, je lui ai dit que c'est de nature inacceptable. J'ai cherché effectivement à le ramener à la raison pour lui dire de replier au camp Alpha Aya. Et je crois que pendant ce temps, c'est le destin, tout d'un seul coup, parce qu'il avait une arme, tout d'un seul coup, c'est un tir que je vois à mon niveau. Et donc, là, je suis à terre.
En ce mois de décembre donc, Le capitaine Moussa Dadis Camara, blessé, est transporté à Rabat au Maroc pour être soigné. À partir de cet instant, l'intérim est assuré par celui qui officiellement fait office de numéro 3 du régime, le général Sékouba Konaté. Mais s'il prend provisoirement les rênes de la Guinée en l'absence de Dadis Camara, il doit dans le même temps faire face aux rumeurs qui veulent que le chef de la junte ne soit que légèrement blessé et qu'il ne devrait pas tarder à revenir. D'autres, eux, prétendent qu'il est mort. Certainement pour avoir une vision plus claire de l'état de santé de son capitaine de président et savoir s'il pourra être rapidement ou non sur pied, le général Sékouba Konaté s'envole le 6 janvier 2010 pour Rabat où il va s'entretenir avec les médecins qui s'occupent du grand blessé. Puis revient au pays.
Il nous faut poser dès maintenant des actes allant dans le sens de l'apaisement, de l'unité de tous les Guinéens, de la refondation de notre État et de notre système politique. Pour ce faire, et conformément aux accords de Ouaga, nous décidons à partir de l'instant du choix d'un premier ministre issu de l'opposition, désigné par elle-même, qui engagera avec l'ensemble des couches sociales et politiques du pays des discussions et consultations pour la mise en place d'un gouvernement de transition d'union nationale.
De retour du Maroc, le général Sékouba Konaté se dit donc prêt à nommer un premier ministre issu des rangs de l'opposition. Un geste fort perçu comme la preuve que le chef de la junte n'est pas prêt de revenir, puisqu'il est interprété comme la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale qui clôt définitivement la page d'Addis Camara. Une idée qui naturellement suscite la colère et l'opposition des proches du capitaine. Et le changement ne s'arrête pas là.
Les acteurs politiques, tous les compatriotes qui, pour des raisons de sécurité ou parce qu'ils sont menacés dans leur liberté ou encore parce qu'ils sont frustrés dans leurs droits, ont choisi de vivre à l'étranger, sont invités à rentrer au bercail pour apporter leur contribution dans la construction d'une Guinée nouvelle.
Les décisions du nouveau chef, le général Sékouba Konaté, ne séduisent pas les proches de l'ex-chef de la junte. Pour eux, il fonctionne comme si l'épisode d'Addis était clos. L'ambiance est plutôt délétère au sein de l'armée où les amis de Dadis souhaitent son retour rapide. Pour eux, il serait tout simplement retenu au Maroc. Une situation qui fait planer sur le pays un nouveau risque d'affrontement. Le 12 janvier 2010, une rumeur circule plus fort que d'habitude dans la capitale guinéenne. Le capitaine Moussa Dadis Camara serait sur le point d'atterrir à Conakry. Des proches ont même effectué le déplacement pour assister à son arrivée à l'aéroport de Bessia. Rumeur à laquelle les autorités essaient d'apporter un démenti. À 1 000 000 de kilomètres de là, à Ouagadougou, en fin de journée, un petit avion atterrit sur l'aéroport civil. Il va s'immobiliser dans un aérogare un peu plus discret, à l'abri de regards. Un aéronef en provenance du Maroc, qui n'était pas attendu. Aucun plan de vol déposé. Puis, dans l'aérogare, des officiels, visiblement surpris par cette arrivée, qui s'empressent de rejoindre le petit avion d'où jusque-là personne n'est sorti. Les responsables burkinabés rejoignent le petit avion d'où descend d'abord le pilote marocain. Après une courte discussion, un des membres du gouvernement burkinabé, venu en urgence accueillir cet hôte pour l'instant invisible, monte à bord. Après quelques minutes, surprise. C'est un Moussa Dadis Camara, affaibli, amaigri, tenu par la main, qui sort de l'aéronef. Alpha Barry était le correspondant de RFI au Burkina Faso à cette période-là.
Oui, il est sorti de l'avion. Moussa Dadis Camara est arrivé à l'aéroport militaire de Ouagadougou à bord d'un petit avion marocain. Et là, il a été accueilli par le ministre burkinabé des Affaires étrangères avec des proches du président Compaoré, notamment le colonel-major Gilbert Tiengere. Et en ce moment, il vient d'entrer dans le salon d'honneur de l'aéroport militaire et il était soutenu par deux personnes. Les deux côtés, au bras, il marche difficilement avec un manteau, il porte un manteau et des lunettes, et en tenue civile notamment.
A-t-il prononcé quelques mots ?
Ah non, non, pas du tout. Il vient juste d'atterrir et il vient juste d'entrer il y a juste quelques secondes dans le salon présidentiel. Certainement, il va se reposer quelques minutes avant que le dispositif se mette en place pour l'envoyer dans une villa, a-t-on dit, il devrait être logé dans une villa à Ouagadougou.
Et est-ce que l'on sait, Alpha, est-ce que vous savez si Ouagadougou est sa destination finale ou est-ce que c'est une étape?
Ben, les Burkinabés aussi se posent cette question parce qu'ils ont été surpris, parce que selon nos informations, hier, il y a eu un coup de fil entre le roi du Maroc et le président Blaise Compaoré. Le roi du Maroc aurait demandé à Blaise Compaoré d'accueillir Moussa Dadis Camara. Le président Burkinabé aurait demandé au roi du Maroc un temps de réflexion. Mais surprise, aujourd'hui, en fin d'après-midi, en début de soirée, les autorités burkinabées ont été saisies de l'arrivée imminente de Moussa Dadis Camara. Donc, pour le moment, eux-mêmes se posent des questions et on annonce l'arrivée demain du général Sékouba Konaté. Sékouba Konaté qui devrait avoir des discussions avec Moussa Dadis Camara ici. Et c'est en ce moment que les Burkinabés sauront exactement ce qu'ils vont faire de leur hôte.
Le roi Mohamed VI du Maroc, excédé par l'insistance du capitaine Moussa Dadis Camara, s'est finalement débarrassé de son hôte encombrant en l'envoyant sans prévenir à Ouagadougou chez son ami, le président Blaise Compaoré. Capitaine Moussa Dadis Camara, lorsqu'on se souvient du film des événements de cette journée du 12 janvier à l'aéroport de Ouagadougou, on ne peut que s'interroger sur le niveau d'information que vous aviez. On vous voyait un peu perdu. Vous ne saviez pas, en montant et même en atterrissant, qu'on vous amenait à Ouagadougou?
Oui, bon, je crois que cela, ça peut être effectivement, comme vous le dites, mais après toute analyse, je crois que si les gens l'ont fait, certainement ils ne voulaient pas, parce que l'avion ou l'appareil pouvait être endommagé, ou il pouvait se passer quelque chose qui allait être encore plus grave.
Une chose est sûre, Moussa Dadis Camara est désormais à Ouagadougou, où il va poursuivre sa convalescence. À l'annonce de cette arrivée, ses partisans, ses proches qui l'attendaient à Conakry sont en colère. Certains n'hésitent pas à parler d'enlèvement, de séquestration. D'autres menacent même d'aller le chercher à Ouagadougou. Le général Sékouba Konaté va mettre en garde certains militaires qui organisent des réunions secrètes pour aller chercher Dadis afin de le ramener à la maison. Le lendemain donc, le général Sékouba Konaté en personne se rend à Ouagadougou pour rencontrer Moussa Dadis Camara souffrant. C'est le début de longues négociations pour la gestion de la transition. Même malade et affaibli, le chef de la junte, qui a été rejoint par quelques proches, des amis venus le soutenir et le convaincre de ne pas abdiquer, aimerait bien retourner en Guinée et reprendre son poste de président. Une idée qui n'est pas du tout partagée par les forces vives, le forum qui regroupe les mouvements politiques et syndicaux. C'est le début d'une longue médiation qui met au grand jour les dissensions qui existent au sein même de la junte. Médiation dans une ambiance électrique, conduite par le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Moussa Dadis Camara, malade, acculé, signe le 15 janvier 2010 l'accord de sortie de crise qui le maintient en convalescence au Burkina Faso et qui prévoit la nomination d'un premier ministre par les forces vives et la tenue d'une élection présidentielle dans un délai de 6 mois. C'est un Dadis méconnaissable qui lit le communiqué.
J'ai accepté de signer en toute conscience et en toute connaissance de cause, la déclaration de Ouagadougou le 15 janvier 2010, elle ne m'a pas été imposée. Je vous déclare par ma voix que ma santé s'est grandement améliorée et que ma vie est hors de danger. Mais pour consolider cet état, j'ai besoin d'une convalescence suivie, que je suis libre de passer où je voudrais. Depuis que je suis arrivé ici à Ouagadougou, je sais que beaucoup de gens ont pris d'assaut à l'aéroport de Conakry, réclamant ainsi mon retour au pays. Je vous demande de regagner vos domiciles dans le calme.
Cette fois-ci, c'est fait. Le capitaine Moussa Dadis Camara cède son pouvoir à Sékouba Konaté. C'est officiel. Le général devient le président de la transition. Capitaine Moussa Dadis Camara, qui c'est qui l'a choisi? C'est vous?
C'est bien bel et moi qui ai choisi le général Sékouba pour qu'il soit intérimaire, pour qu'il assume l'intérim.
Avec le recul, avec toute la distance nécessaire, lorsque vous revivez, lorsque vous revenez sur la période que vous avez passée aux affaires, l'année où vous avez été à la tête du Conseil National pour la Démocratie et le Développement, le CNDD, la période où vous vous imprégniez tantôt aux hommes politiques, tantôt aux commerçants et aux diplomates, les humiliant souvent devant les caméras de télévision, n'avez-vous pas le sentiment qu'à un moment, vous avez perdu la tête?
À chaque moment, l'homme apprend. Peut-être que c'est un défaut ou une qualité. Quand je respecte, je veux qu'on me respecte. Et j'ai réagi avec l'ambassadeur d'Allemagne. Je puisse dire que je dois tout à l'Allemagne. Je puisse dire que je suis un produit parce que j'ai fait ma formation d'officier. J'ai la parfaite maîtrise de la langue. Et je puisse dire que j'ai hérité de certains comportements, de certains caractères, un peu plus travers, un peu plus honnête, sincère. Et donc, si à un moment donné, je suis acculé par un ambassadeur, je me dis en quelque sorte que c'est un peu une violation, en quelque sorte, au point de vue souveraineté. Un chef d'État a droit à un respect, quelle que soit la nature. C'est comme le nouveau président Alpha Condé. Il a droit à tous les respects. Un ambassadeur ne peut pas se permettre, ou quelqu'un d'autre, quelle que soit l'institution, ne peut pas se permettre de l'offusquer. Il réagit. C'était ça un peu.
Ce 15 janvier 2010, donc, se termine l'éphémère et remuant épisode du capitaine Moussa Dadis Camara. Le nouveau patron qui mène le bateau guinéen dans cette houle est le général Sékouba Konaté. Selou Dalène Diallo, l'un des principaux leaders de l'opposition en Guinée.
Si j'en juge par les discours qu'il a tenus, par la position qu'il a tenue et par surtout la résistance qu'il a opposée aux extrémistes du CNDD, je dois admettre que c'est un héros et tant qu'il est dans cette disposition, il aura le soutien de mon parti et je pense du peuple, tout le peuple de Guinée.
Le 15 janvier 2010, la Guinée et avec elle toute la communauté internationale semble se réjouir de l'accord signé à Ouagadougou qui fait officiellement de Sékouba Konaté le nouveau président qui doit mener la transition en Guinée. C'est toute la classe politique qui exprime sa satisfaction. Alpha Condé, à l'époque leader du Rassemblement du peuple de Guinée.
C'est une très très bonne nouvelle pour le peuple de Guinée. Peut-être c'est la sortie du tunnel pour le peuple de Guinée après 50 ans.
Le compromis de Ouagadougou a permis d'éclaircir quelques points concernant cette transition et notamment sur l'inéligibilité des membres de la junte, des militaires et des membres du futur gouvernement de transition. C'est une bonne chose?
C'est une excellente chose parce que c'est à cause de cela qu'il y a eu les sanctions et c'est à cause de tout ça qu'il y a eu les événements du 28 septembre. Et les gens du 28 septembre ne sont pas morts pour rien.
Selou Dalène Diallo, le leader de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée.
J'ai demandé aujourd'hui à mon parti de se mobiliser massivement pour réserver au général Sékouba un accueil chaleureux, digne d'un accueil qu'on réserve à un patriote, un républicain qui a remis la Guinée sur le chemin de la démocratie.
Celui qui prend l'avion ce 16 janvier 2010 et à qui les Guinéens réservent cet accueil particulièrement chaleureux est un officier atypique, un personnage qui tranche singulièrement avec son bouillant prédécesseur. L'ère d'Addis Camara s'achève, celle de Sékouba Konaté démarre. De retour au pays, le général intérimaire se met dans la peau du numéro 1 et multiplie aussitôt les signes d'apaisement. Les discours enflammés de Dadis laissent place à la diplomatie et au respect des partenaires. Et plutôt que de rabrouer les partenaires techniques et financiers, il sollicite leur aide et leur compréhension pour soutenir son pays pendant ce moment difficile. À la communauté internationale, il donne des gages de bonne volonté, notamment en promettant d'organiser des élections libres et transparentes et en se disant prêt à nommer un premier ministre issu des rangs de l'opposition. Mais celui qui vient ainsi contrarier les projets de certains officiers projet d'Addis bénéficie-t-il d'appui nécessaire pour mener la transition? Dans l'ambiance délétère qui règne dans les casernes, avec de fortes divisions sur ce que beaucoup commencent à percevoir comme l'exil de d'Addis, est-il en mesure de ramener le calme? Rien n'est moins sûr. Mais on en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale, 60 ans d'indépendance de la Guinée. À très vite.
Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je vous déclare par ma voix que ma santé s'est grandement améliorée et que ma vie est hors de danger. Mais pour consolider cet état, j'ai besoin d'une convalescence suivie, que je suis libre de passer où je voudrais.
Cette convalescence, il la passera à Ouagadougou. C'est désormais officiel donc, le capitaine Moussa Dadis Camara ne reviendra pas au pouvoir à Conakry. L'attentat dont il a été victime a finalement mis un terme à son règne. Les massacres du 28 septembre 2009, qui avaient fait plus de 157 morts et des centaines de blessés, ont finalement eu raison de son régime. Malade, diminué, isolé et ramené contre son gré du Maroc au Burkina Faso plutôt qu'en Guinée, même s'il le dément, il est maintenant obligé, forcé, de poursuivre sa convalescence dans la capitale burkinabé, de se mettre en retrait de la vie politique de son pays. Il cède donc la présidence, la gestion de la transition qu'il menait à son ministre de la Défense, l'un des cerveaux du putsch qui a fait de lui le président du CNDD, le Conseil National pour la Démocratie et le Développement. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. À partir de cet instant, le général Sékou Ba Konaté, qui assurait l'intérim de Dadis, devient, très officiellement, le président de la transition en Guinée. Capitaine Moussa Dadis Camara, on écoute dans votre discours de ce 15 janvier 2010, combien vous étiez encore fragile et bouleversé en même temps. Qui est-ce qui a choisi le général Sékou Ba Konaté? C'est vous?
C'est bien bel et moi qui ai choisi le général Sékou Ba pour qu'il soit intérimaire, pour qu'il assume l'intérim.
Il faut tout de même se souvenir, capitaine, que cet accord de Ouagadougou que vous lisez ce 15 janvier 2010 n'a pas été facile à obtenir. Il a fait l'objet d'âpres discussions, notamment avec vos partisans. Le général Sékou Ba Konaté vous a même accusé pendant ces jours de pourparler à Ouagadougou d'avoir trahi votre engagement. Vous ne lui faisiez pas confiance?
Si je n'avais pas confiance à lui, je n'allais pas accepter, quand je suis venu à Ouaga, lui désigner. Parce que il n'était pas le seul officier capable qui pouvait mener la situation.
Ce 15 janvier 2010 donc se termine l'éphémère et remuant épisode du capitaine Moussa Dadis Camara. Le nouveau capitaine qui mène le bateau guinéen dans cette houle est le général Sékou Ba Konaté. Selou Dalène Diallo, l'un des principaux leaders de l'opposition en Guinée.
Si j'en juge par les discours qu'il a tenus, par la position qu'il a tenue et par surtout la résistance qu'il a opposée aux extrémistes du CNDD, je dois admettre que c'est un héros et tant qu'il est dans cette disposition, il aura le soutien de mon parti et je pense du peuple, tout le peuple de Guinée.
Ce 15 janvier 2010, la Guinée et avec elle toute la communauté internationale semble se réjouir de l'accord signé à Ouagadougou qui fait officiellement de Sékou Ba Konaté le nouveau président qui doit mener la transition en Guinée. C'est toute la classe politique qui exprime sa satisfaction. Alpha Condé, à l'époque, leader du Rassemblement du peuple de Guinée.
C'est une très bonne nouvelle pour le peuple de Guinée. Peut-être c'est la sortie du tunnel pour le peuple de Guinée après 50 ans.
Le compromis de Ouagadougou a permis d'éclaircir quelques points concernant cette transition et notamment sur l'inéligibilité des membres de la junte, des militaires et des membres du futur gouvernement de transition. C'est une bonne chose?
C'est une excellente chose parce que c'est à cause de cela qu'il y a eu les sanctions et c'est à cause de tout ça qu'il y a eu les événements du 28 septembre. Et les gens du 28 septembre ne sont pas morts pour rien.
C'est Lou Dalène Diallo, le leader de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée.
J'ai demandé aujourd'hui à mon parti de se mobiliser massivement pour réserver au général Sékou Ba un accueil chaleureux, digne d'un accueil qu'on réserve à un patriote, un républicain qui a remis la Guinée sur le chemin de la démocratie.
Celui qui prend l'avion ce 16 janvier 2010 et à qui les Guinéens réservent cet accueil particulièrement chaleureux est un officier atypique. Un personnage qui tranche singulièrement avec son bouillant prédécesseur. Solitaire, presque timide, c'est originaire de la Guinée forestière, né à Conakry en 1964, fils d'un commandant ayant servi dans l'armée du président Sékou Touré et d'une métisse guinéo-libanaise, a gagné du respect dans l'armée par son parcours, ses faits d'armes. Après son baccalauréat obtenu en 1983, il va entrer dans l'armée 2 ans plus tard. Il est ensuite admis à l'Académie militaire de Meknès, au Maroc. C'est en 1990 qu'il retourne au pays. Pas pour longtemps, puisque 2 ans plus tard, il repart en stage à l'école d'application de l'infanterie de Montpellier. Sa formation, il la poursuit à l'école des troupes aéroportées de Pau, dans le sud de la France. On va le retrouver en 1995 dans les Comog, la force d'interposition de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui était chargée d'assurer la sécurité au Libéria et en Sierra Leone.
Vous devez savoir que c'est pas seulement les soldats qui veulent l'augmentation de leur salaire qui sont dans les rues. Alors, les soldats qui réclament les salaires, je vous demande de rentrer dans les camps. Je vous ai promis, je vais réaliser. Laissez dans les rues ceux qui veulent prendre le pouvoir. Ne mélangez pas les choses.
Nous sommes en février 1996 et Conakry est à nouveau le théâtre d'une mutinerie. Mouvement d'humeur qui va sérieusement faire tanguer le régime Conté. Mais le vieux général a de la ressource. Il va parvenir à mater à nouveau cette rébellion. Sékou Bakonaté fait partie de ceux qui vont être arrêtés pour y avoir participé. Après 2 mois de prison, il est relâché faute de preuves. Il repart en Sierra Leone. Il restera à Freetown jusqu'en 1999. Et après une nouvelle formation, cette fois-ci en Chine, il est nommé à la tête des Rangers, les combattants du Macenta à la frontière libérienne, qui deviendra le théâtre des affrontements violents entre l'armée guinéenne et des rebelles venus du Libéria et de Sierra Leone. C'est sur ce champ de bataille que sa férocité et son ardeur au combat vont lui valoir le surnom de Tigre. Il a le respect des troupes. Le Tigre quitte la zone en 2007 et bénéficiant du soutien d'un proche de la famille, le général Kerfala Camara, chef d'état-major et futur ministre de la Défense de l'Ansana Conté, il est nommé en juillet 2008 commandant de l'unité d'élite du bataillon autonome des troupes aéroportées, le BATA. C'est justement à ce poste qu'il va perpétrer avec le capitaine Moussa Dadis Camara, avec qui il entretient d'excellentes relations, ce fameux putsch du 23 décembre 2008. Mais il n'est pas intéressé par le pouvoir. Il préfère le laisser à Dadis Camara. Dadis Camara, dont il va être l'un des principaux soutiens jusqu'à la date du 28 septembre, puisqu'il est présent dans ses plus importants déplacements. Le 29 mars 2009, lors du premier grand meeting de soutien à la junte organisé au stade du 28 septembre, il est à ses côtés. Il va même déclarer à Fria, petite ville à 160 km de Conakry, en plein débat sur la candidature du chef de la junte, « Si le capitaine s'est présenté à cette élection, c'est parce que vous l'avez réclamé. Il entend respecter la volonté du peuple et le verdict des urnes. » Fin de citation. Sékou Bakonaté est en voyage au Liban lorsque Toumba Diakité, l'aide de camp de Dadis, tire sur lui. Le général reprend aussitôt l'avion. C'est dans ces conditions qu'il se retrouve à la tête de la transition, chose qu'il n'attendait pas. Mais il va aussitôt multiplier les gestes d'apaisement et inviter les Guinéens à revenir au pays.
Il nous faut poser dès maintenant des actes allant dans le sens de l'apaisement, de l'unité de tous les Guinéens, de la refondation de notre État et de notre système politique. Pour ce faire, et conformément aux accords de Ouaga, nous décidons à partir de l'instant du choix d'un premier ministre issu de l'opposition, désigné par elle-même, qui engagera avec l'ensemble des couches sociales et politiques du pays des discussions et consultations pour la mise en place d'un gouvernement de transition d'union nationale. Le temps et les modalités pour y arriver, la composition de cette nouvelle équipe basée sur l'unité dans la diversité incombe désormais à toutes les parties concernées, que j'invite à tout faire pour ne pas imposer au pays une attente longue et interminable. Que voulons-nous? Où allons-nous? Qui doit nous diriger? C'est au peuple souverain de Guinée d'en décider le moment venu, à l'occasion des élections que nous attendons et espérons fortement et qui se dérouleront à la date fixée par la nouvelle autorité de transition.
Les discours enflammés de Dadis laissent place à la diplomatie et au respect des partenaires. Et plutôt que de les rabrouer, il sollicite leur aide et leur compréhension pour soutenir son pays pendant ce moment difficile. À la communauté internationale, il donne des gages de bonne volonté, notamment en promettant d'organiser des élections libres et transparentes, et en se disant prêt à nommer un premier ministre issu des rangs de l'opposition.
Les acteurs politiques, tous les compatriotes qui, pour des raisons de sécurité ou parce qu'ils sont menacés dans leur liberté ou encore parce qu'ils sont frustrés dans leurs droits, ont choisi de vivre à l'étranger, sont invités à rentrer au bercail pour apporter leur contribution dans la construction d'une Guinée nouvelle, démocratique et prospère, dont les bases à compter de ce jour historique sont jetées. par ma voix. Le CNDD et le gouvernement s'engagent solennellement et fermement à garantir la sécurité de chacun et tous.
Après les accords de Ouagadougou qui donnent donc les pleins pouvoirs au général Sékouba Konaté pour mener à bien la transition, il faut désormais penser à autre chose. Dès le 21 janvier 2010, comme promis, le nouveau chef de la junte nomme selon les recommandations d'une coalition d'organisations politiques et de la société civile, Jean-Marie Doré, Premier ministre. Le nouveau chef du gouvernement, plusieurs fois candidat malheureux à la présidentielle, a pour tâche d'organiser les premières élections démocratiques.
Tout est conçu pour qu'on arrive à la pacification. Tout n'est pas encore fait pour que la situation soit pacifique. Il faut que les sanctions soient levées graduellement au fur et à mesure que la Guinée, n'est-ce pas, comprend son rôle d'État qui doit être respectable, qui doit respecter ses engagements envers les populations et envers les partenaires au développement.
Dans sa mission, comme c'est la tradition en Guinée, pour respecter les équilibres régionaux et ethniques, Jean-Marie Doré est secondé par deux vice-premiers ministres. Madame Rabiatou Sera Diallo, proposée par les syndicats, et le général Mamadouba Toto Camara. Le gouvernement est composé de 30 ministres. Les accords de Ouagadougou octroient 10 portefeuilles au CNDD, le Conseil National pour la Démocratie et le Développement. Cette fois, les choses semblent avoir changé. Le président semble plutôt pressé d'en finir avec le pouvoir. Déjà qu'il n'assiste quasiment pas au Conseil des ministres. Le vrai patron du gouvernement est le Premier ministre Jean-Marie Doré. Sékouba Konaté veille plutôt et surtout à ce que la grande muette, l'armée, se tienne tranquille et ne fausse pas le jeu. Il joue plutôt les ambassadeurs, les VRP, voyageant un peu partout pour redorer l'image de son pays. Il est à Dakar, à Bamako, à Banjul, en Turquie et bien d'autres destinations.
Aujourd'hui, la Guinée aussi est sur la même voie et affiche la même détermination à réussir son projet démocratique. Nous avons compris que l'homme, en particulier l'officier, trouve son honneur et sa dignité dans le respect de ses engagements, de la parole donnée. Désormais, et plus que par le passé, aucun peuple, aucun pays n'acceptera de vivre sans liberté et la démocratie. Aucun peuple, aucun pays ne se laissera priver d'élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées. En Guinée, nous irons aux élections dans les jours qui suivent. Les consultations qui, je l'espère, marqueront le début de notre âge d'or démocratique, en particulier de la renaissance guinéenne en général. Que notre seule ambition est d'amener la Guinée le plus tôt possible dans la paix et l'unité aux élections.
Le général Sékouba Konaté va également aller à la rencontre des partenaires des nations occidentales pour plaider en faveur de la levée des sanctions qui frappent son pays. Ainsi, en avril 2010, il est à Paris.
Nous avons évoqué le futur immédiat, l'avenir du peuple guinéen, ces élections tout à fait nécessaires. Ne nous tournons plus vers le passé. Maintenant, il faut que la démocratie gagne et que le peuple guinéen enfin puisse s'exprimer. Et voilà ce que nous attendons.
À chacun des déplacements du général Sékouba à l'étranger, revient la question des massacres du 28 septembre 2009. Où en est la justice? Le 8 février 2010, la justice guinéenne ouvre une instruction judiciaire pour ces crimes. Trois magistrats instructeurs sont nommés. Mais dans la grande muette, l'armée, ce n'est pas vraiment la sérénité qui règne. Le général doit faire face aux partisans du capitaine Moussa Dadis Camara qui n'ont pas vraiment capitulé. En mars 2010, le président de la transition est obligé de menacer très clairement les éléments qui tentent de saboter la transition. Il dénonce certains militaires qui organisent des réunions secrètes dans des endroits de Conakry et de sa périphérie. Des actions qui, selon lui, visent à déstabiliser le processus en cours. Le Premier ministre Jean-Marie Doré va s'insurger très clairement contre ses officiers et sous-officiers.
J'avertis quiconque, au nom d'une foi, au nom d'une liberté non définie, voudrait créer un climat de tension pour empêcher le déroulement normal du processus électoral. J'avertis la communauté internationale qu'il ne sera pas question de freiner l'élan de nos forces de sécurité de maintenir la paix civile coûte que coûte. Si se départissant du devoir démocratique de faire prévaloir publiquement son opinion, son adhésion ou son opposition à une décision du gouvernement, à un discours d'un rival, ces groupuscules voulaient utiliser le contournement de la raison par des voies obliques et armées. Ils trouveront devant eux le peuple de Guinée et à son avant-garde et son armée pour dire non au désordre.
Malgré ces menaces que font encore peser certains militaires sur le déroulement du processus de transition, Le 7 mars 2010, le général Sékouba Konaté va fixer par décret la date du premier tour de l'élection présidentielle au 27 juin 2010. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Désormais en Guinée, on se prépare. On attend le moment où les Guinéens vont enfin pouvoir se rendre aux urnes pour choisir librement leurs dirigeants. Les invectives et les promesses peuvent démarrer. Même le parti de l'Ansana Conté, qui avait été un peu malmené du temps de Moussa Dadis Camara, refait surface, avec son candidat qui bat campagne avec conviction. Aboubacar Sompare.
Nous ne sommes pas un candidat du passé, parce que la population guinéenne est satisfaite de la gestion des gouvernements successifs du général président Ansana Conté. C'est pourquoi nous n'avons pas de complexe du tout à nous présenter devant l'électorat. Nous sommes le seul parti à caractère national. Tous les autres sont des partis communautaristes. Les populations paysannes sont très satisfaites de notre gestion. C'est pourquoi elles vont nous donner encore la confiance. Et c'est pour cela que nos adversaires, pour s'implanter, ont dû raconter partout que le PIP était mort. Depuis que la population a su que le PIP n'est pas mort, c'est un raz-de-marée en direction du PIP.
La Cour suprême de Guinée va retenir les candidatures de 24 civils sur les 36 dossiers qui lui avaient été soumis.
Les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour, ce sont respectivement et par ordre de suffrage obtenu, M. Sélou Dalé Diallo et M. Alpha Condé.
Écoutez, je suis le premier de la liste et je me réjouis d'avoir obtenu un tel score. Et je voudrais inviter mes compatriotes dont les partis n'ont pas pu avoir la chance d'aller au second tour, de se joindre à l'UFDG afin de gagner cette élection.
Moustapha Naïté, directeur adjoint de la communication du RPG.
Nous sommes très ravis d'être au deuxième tour et je suis bel et bien confiant que nous allons bien sûr rattraper ces 20 points d'écart et dépasser. Nous tendons la main à tous les candidats pour bâtir une nation forte et qui répondra bien sûr à ce que attend la Guinée de ses futurs dirigeants.
Ce soir du 28 juin, la Guinée découvre ses vainqueurs. Sélou Dalène Diallo et Alpha Condé.
Tout d'abord un vote avec une participation importante puisque 77% des électeurs guinéens se sont rendus aux urnes. Et effectivement un vote utile parce que l'on a voté pour les grandes figures. 4 des 24 candidats dépassent la barre des 5%. Vous l'avez dit, Sélou Dalène Diallo avec ses 39,7, Alpha Condé 20,7, Sidya Touré 15,6 et Lansana Kouyaté avec 7,75% des voix. Ces deux derniers seront d'ailleurs sans doute très courtisés par les deux qualifiés du second tour. Pour le reste, les électeurs guinéens ont vraiment tourné le dos aux petits candidats qui pour la plupart étaient d'illustres inconnus. Ils ont aussi tourné le dos aux barons du PUP, l'ancien parti du défunt président Lansana Conté. Les ex-ministres ou les ex-amis de ce dernier qui se présentaient ont tous réalisé des scores proches du ridicule. Et bien évidemment, ce scrutin a le mérite d'éclaircir considérablement le paysage politique guinéen. Notez quand même que ce fut un vote ethnique ou communautaire, si vous préférez. Les Peuls ont voté pour le candidat Peul, les Malinqués pour le candidat Malinqué, les Forestiers pour les deux candidats issus de la forêt. Une tendance qui inquiète beaucoup ici, mais qui s'explique sans doute par le manque d'ancrage démocratique du pays. On est à l'aube de la construction d'un système politique ouvert et il faudra du temps, Sonia, avant que les électeurs et les hommes politiques ne changent ce réflexe communautaire.
Ce premier tour, qui s'est déroulé dans le calme, dissimule mal les conflits et les rancœurs qui accompagnent les résultats. Les heures qui vont suivre s'annoncent beaucoup moins paisibles, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Mais vous pouvez évidemment réécouter toutes les éditions précédentes sur le site de RFI à la rubrique « Les émissions » ou sur archivesdafrique.com. Vous avez également la possibilité de nous écouter sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Nous attendons également vos réactions sur notre page Facebook qui compte aujourd'hui plus de 600 000 amis. La première sur notre antenne. Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite des Archives d'Afrique, 60 ans d'indépendance de la Guinée. À très vite.